Plus musical le matin.
Transistor.
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 La journée de la radio fait son grand retour sur Transistor.
Transistor.
La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor, en direct toute la journée.
Vous appelez et vous raflez toutes les 10 minutes le double album de Serge Gainsbourg.
Que vous soyez partisan des ondes.
Est-ce que vous sentez les ondes?
Partisan du podcast.
Elles sont là, elles sont partout.
Oh non, pas ça.
Oh, elles sont dans les campagnes, dans les villes, elles sont sur les réseaux sociaux.
Eh bien, podcaster maintenant.
Le 13 avril de 7h à 19h.
Et donc c'est parti pour la deuxième table ronde de la journée avec donc Clara et Lucas et leurs invités. Donc on va vous laisser discuter hein, autour de votre thème, les présenter. Et puis bah bon courage.
Oui merci Benoît. Bienvenue à tous pour la deuxième table ronde de cette 9e édition de la journée de la radio sur Transistor, la radio étudiante de l'ENS de Lyon. Alors que l'essor du podcast peut être défini comme un audio à la demande, un prêt à écouter, diront les mauvaises langues, il importe de s'interroger sur les nouvelles pratiques et écoutes de l'auditeur contemporain. C'est en ce sens que nous avons réuni aujourd'hui deux invités qui, à leur façon, ont exploré les chemins tantôt divergents, tantôt convergents de la radio et du podcast.
Et pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir Marine Beccarelli tout d'abord. Marine Beccarelli, bienvenue. Vous êtes chercheuse en histoire de la radio, enseignante à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et collaboratrice spécialisée d'émissions sur Radio France, notamment avec l'esprit public et les enjeux internationaux. Vous allez sous peu publier votre thèse, intitulée « Micro de nuit » et sous-titrée « Histoire de la radio nocturne en France 1945-2012 » aux presses universitaires de Rennes. Vous avez en outre publié en 2014 aux éditions de l'INA « Les nuits du bout des ondes », tirée de la série de podcasts éponymes, explorant au cours de la nuit les rêveries d'un chauffeur de taxi nourri par la radio nocturne. Marine Beccarelli, nous entendez-vous ?
Oui, je vous entends. Bonjour.
Nous sommes ravis de vous recevoir.
Bonjour.
Merci, moi aussi, je suis ravie d'être là.
Super. Et nous avons également le plaisir de recevoir Thomas Baumgartner. Bienvenue à vous. Producteur protéiforme, vraiment, c'est le cas de le dire, qui a travaillé énormément dans les domaines de la création sonore et de sa valorisation par la radio, notamment avec Supersonic, anciennement appelé l'Atelier du son, de 2011 à 2016 sur France Culture. Dans cette émission, vous interrogiez divers acteurs de la création sonore en laissant s'exprimer à la faveur d'une diffusion nocturne vos propres idées de mise en scène. Dans votre émission « Les passagers de la nuit », vous avez exploré également de 2009 à 2011 les possibilités du média radiophonique, en une expérience de création qui n'est pas sans laisser penser à l'Oulipo, d'où peut-être votre fondation, sous forme de clin d'œil de l'Ourapo. Vous êtes également rédacteur en chef et responsable éditorial de Radio Nova. Bonjour Thomas Baumgartner, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je vous entends, est-ce que vous m'entendez ?
Oui,
très
super,
bien, merci beaucoup.
Merci de votre invitation.
C'est nous qui sommes ravis de vous recevoir. Interroger aujourd'hui la place de l'auditeur dans les dynamiques et vents contraires qui agitent la radio et le podcast nécessite de comprendre la relation profonde qui lie l'auditeur et le média radiophonique. Or, produire une émission de radio ou un podcast, c'est tout d'abord tâcher de se faire écouter. Dès lors, on ne peut qu'évoquer le partage de l'auditorat, partage tant au sens de clivage qu'au sens de rassemblement. Il faut se demander quelle population se place derrière le transistor moderne qu'est l'ordinateur et comment leur manière d'écouter décrive des évolutions profondes. En somme, comment l'offre dithyrambique de podcasts divers et variés a inscrit l'auditeur au sein même du processus créatif.
Nous articulerons en conséquence notre table ronde autour de la problématique suivante. Dans quelle mesure la place grandissante du podcast face aux ondes révèle les attentes d'un public en évolution, tout en soulignant les manières diverses dont on considère l'auditorat du côté de la production ? Du partage comme communauté au partage comme fragmentation, il n'y a qu'un pas. Comment s'y retrouver en retrouvant l'auditeur avec soi ?
Il s'agit d'abord pour le producteur de se faire connaître de son auditeur, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif, et de parvenir, mieux que de se faire entendre, à se faire écouter par un public qui l'interpellerait véritablement, donc de la radio ou du podcast, où le lien se crée-t-il le plus ?
Je ne sais pas si cette question s'adresse à quelqu'un en particulier.
Non, en fait c'était la présentation de la première partie de la table ronde.
Ah, pardon.
J'ai cru moi aussi qu'il fallait répondre à cette
oui,
question.
Oui, parce qu'il y a eu un...
Ah non, pas de panique, si on vous pose une question, elle sera bien claire, pas comme ça.
D'accord. Tout d'abord, nous allons aborder la question du plaire et du déplaire, donc de la manière de s'adresser à l'auditorat. Et tout de suite, nous allons écouter une création sonore de Thomas Baumgartner diffusée sur arteradio.com.
Bah, peut-être, oui.
Régis ?
Des fois, oui, oui.
Non, franchement, je pense que ça va peut-être améliorer les choses.
Moi, je suis contre.
Pourquoi pas ? Ouais, je pense que c'est possible. Je pense que c'est un problème de crédibilité aussi, par rapport à ce qui se passe actuellement et par rapport au reste.
Il pourrait, mais je trouve qu'il serait plus crédible. Et potentiellement, il y a peut-être plus ses chances aussi, quoi, c'est tout.
Je suis pas non plus dans le... mais à mon niveau, non, je pense pas, non.
Je pense pas, non. Je sais pas.
C'est le cours de la vie, c'est tout, ça va augmenter, puis voilà.
Pardon, je suis vraiment désolée, j'ai pas de temps.
Ah ben, c'est ce que toutes les femmes souhaitent, certainement, hein. Certainement, pour l'Europe, c'est bon.
En ce moment, non.
Si, c'est bien, et ça peut peut-être être un exemple pour nous.
Ah oui, il suffit qu'il y ait une épidémie aviaire, un événement mondial.
Alors, c'était votre création sonore, Thomas Baumgartner, intitulée « Micro-trottoir » et diffusée sur arteradio.com. En mélangeant les voix, vous faites parler les auditeurs, tout en parlant d'eux finalement, en superposant leurs réactions, en sélectionnant leurs phrases. Et le travail de montage, qui est plus facilement permis par le podcast, permet alors finalement de dessiner une certaine image de l'homme. Alors la prochaine question s'adresse à vous, Thomas Baumgartner. Vous qui êtes passé en 2016 de la Maison Ronde à Radio Nova, pensez-vous que la manière de s'adresser à l'auditeur est différente entre la radio en direct et le podcast? Est-ce qu'un média, en somme, permettrait mieux que l'autre de construire une relation de confiance avec l'auditeur?
La question de la confiance, je crois que c'est une question essentielle, passe du son ou quoi que ce soit d'autre dans les médias aujourd'hui. C'est vraiment un mot-clé. Le fait de passer de Radio France à Radio Nova... ne changez pas spécifiquement cette question de l'adresse, puisque vous différenciez dans votre question la radio broadcast et la diffusion podcast. Et effectivement, moi, je suis parti de Nova en 2018 pour fonder quelques mois plus tard mon studio de podcast. Et là, en ce moment, c'est mon activité. Donc, peut-être que la question se pose plus précisément du fait de cette transition-là. La question de la confiance, elle peut se défendre autant dans du broadcast que dans du podcast. La question de la confiance, c'est la question de l'identité, de qui parle, d'où on parle. C'est la question de... En radio, je dirais que ça vient de la voix, en fait, et de l'adresse au sens comment je vous parle, comment on nous parle, comment la radio nous parle, comment le podcast nous parle, quel type de relation est créé. Et donc là, c'est la question peut-être plus de la régularité, de la fidélité, qui est peut-être plus simple à imaginer sur du broadcast. Et en même temps, aujourd'hui, il existe des endroits repérés, des voies repérées, des régularités qui font que la confiance est possible avec le podcast. Après, la force du podcast, peut-être, par rapport à une diffusion hertzienne, c'est que quand on écoute un podcast, on est seul à écouter qu'on écoute au moment où on l'écoute. Et donc, une voix qui me parle quand je suis en train d'écouter un podcast, il y a consciemment ou inconsciemment cette force-là de la proximité, de l'intimité. Et oui. Peut-être que le lien de confiance, une fois que le contrat d'écoute, on va dire, est clair, et peut-être plus, on peut établir un lien peut-être plus fort par ce biais-là. Mais c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça. C'est-à-dire qu'on a évidemment 50 ans d'histoire de la radio, ou 70 ans, puisque voilà, la radio un peu moderne commence après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a 70 ans d'histoire de la radio qui nous font comprendre que quand même, le lien, la force du lien par la radio et par l'oreille, c'est quand même quelque chose.
Oui, c'est évident. Donc vous évoquez une sorte de contrat social, si je puis me permettre l'emprunt.
Contrat d'écoute, oui.
Pardon, sur les ondes, mais c'est intéressant parce que vous évoquez également la question de l'histoire. Or, nous avons avec nous donc Marine Beccarelli, qui est historienne de la radio. Donc, pour vous, finalement, la diffusion en direct permettrait de créer une relation de confiance qui s'est prouvée dans l'histoire, mais vous n'établissez pas de différence finalement ontologique entre la radio et le podcast.
Voilà. Je crois... À la question, pardon, je croyais que c'était. Excusez-moi, je suis intervenu. Pardon.
Non, je ne sais pas. Du coup,
vous pouvez tous les deux répondre. Mais...
Pardon, j'ai pas entendu.
Vous pouvez tous les deux répondre.
Du coup, je me permets d'y aller, du coup, sur cette question. Par rapport à ce que disait Thomas sur la proximité créée par le podcast, la personne qui écoute le podcast peut être est la seule personne à écouter ce podcast, cette émission, au moment où elle le souhaite. Et donc, il y a une liberté dans les pratiques d'écoute et justement une proximité, un rapport un peu d'individu à un individu dans cette écoute qui crée effectivement une proximité. Après, comme Thomas le rappelait aussi, c'est vrai que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la radio, et notamment depuis le milieu des années 50 avec l'apparition des postes à transistors qui ont permis d'individualiser l'écoute, puisqu'on avait des postes de radio qui devenaient plus petits et qui se transportaient et qu'on pouvait écouter seul et non plus forcément de manière familiale avec la radio qui trônait au milieu du salon. Il y a une proximité qui s'est quand même développée très fortement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à travers les émissions radiophoniques diffusées en direct. Et je pense que la proximité, elle a pu effectivement exister et se tisser dès cette époque. Et d'ailleurs, les hommes et les femmes de radio, dès les années 50, pensaient s'adresser aux auditeurs en s'adressant vraiment à un auditeur, à un individu, et non pas simplement à un groupe, à une communauté, à un collectif d'auditeurs. Et le fait aussi que qu'une émission radio traditionnelle soit diffusée dans le cadre d'une grille de programme à heure fixe, que ce soit un rendez-vous qui peut être quotidien ou hebdomadaire, ça crée aussi un rendez-vous et une attente chez certains auditeurs qui vont être fidèles à l'émission, se brancher à l'heure dite pour écouter leur animatrice ou animateur préféré. Et donc, il y a également une proximité et une communauté qui se crée. Je pense que je ne sais pas si on peut mettre en avant une plus grande proximité entre les auditeurs de podcasts et les auteurs de podcasts et les auditeurs de radio et les auteurs et les animateurs, animatrices de radio. Voilà, dans tous les cas, je pense que la proximité, elle existe dans les deux cas.
Oui, effectivement, ce que vous nous dites est assez intéressant parce que quand on pense au podcast, il y a moins ce côté de rendez-vous pris avec l'auditeur.
Ouais.
C'est un peu comme si on lâchait le podcast dans la nature qui est Internet en espérant que quelqu'un tombe dessus. Donc peut-être, est-ce que ce lien est peut-être d'une autre nature ? Ce lien de confiance, il évolue peut-être avec le podcast Il est peut-être différent. Thomas Baumgartner, vous vouliez intervenir peut-être ?
Je pense que la question de la. Comment dire ? La radio, s'en est toujours beaucoup mieux tirée que tous les autres médias en ce qui concerne la confiance. Mais parce qu'il y a cette présence, en fait. La radio, le son, le podcast, c'est de la présence par la voix. Et on a tendance, justement, du fait de ce super pouvoir de la radio à déjà être plus attentif à ce qu'on nous dit et réciproquement, ceux qui émettent ont peut-être tendance à être plus clairs, plus nets, plus exigeants, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours eu cette confiance plus grande. Et puis, le podcast, c'est quand même déjà dans la question de la fidélité, de la régularité. Il y a une chose qui est essentielle quand on produit une série, c'est de justement établir encore une fois une sorte de contrat au départ et de dire, voilà, ce sera tous les mercredis ou le premier dimanche de chaque mois. Je pense qu'il est essentiel de tenter cette régularité et de l'annoncer pour créer justement cette attente. Et de plus en plus, on peut attendre des auditeurs de podcast qui soient dans cette attente-là, puisqu'on compte dessus, nous, en tant que producteurs. Et donc, il y a quand même un parallèle avec les habitudes de radio. On est plus tant que ça dans le podcast tout seul qui se balade dans la jungle d'Internet. En tout cas, tout est fait par les professionnels du podcast pour ne pas être dans ce fait de lancer son podcast au petit bonheur lâchant. Et donc, ça contribue à ce lien et encore une fois, à ce mot-là qui est essentiel de confiance. Mais quand je parle de contrat d'écoute, c'est pas seulement... C'est à la fois esthétique et éditorial, c'est-à-dire de dire d'où on parle, ce dont on parle, et petit à petit, de podcast en podcast, dans une série, on construit une esthétique, mais on construit aussi un rapport à l'auditeur, une manière de lui parler, un champ lexical. Enfin, tout ça crée informellement ce contrat d'écoute. Et s'il nous convient en tant qu'auditeur, le lien de confiance se consolide d'épisode en épisode.
D'accord, donc ce que vous nous dites, c'est plutôt que le lien, au-delà de s'exprimer par le rendez-vous, par cette ponctualité, même par l'intermédiaire du transistor, comme l'a mentionné Marine Beccarelli, ce lien, il se crée plus par la volonté du producteur de podcast ou d'émissions radiophoniques de le créer et donc de le développer.
C'est une volonté, mais en fait, elle peut être plus ou moins consciente. C'est-à-dire que quand on fabrique ce type de production, on se donne cette cohérence-là. Et donc, ce qu'on dit souvent, c'est qu'en radio plus qu'en télévision, on se rapproche de la personne, on finit par la connaître, celle qui parle régulièrement. On finit par, au-delà de sa voix, connaître son caractère, avoir une forme de familiarité. Ce sont ces choses-là en fait qui créent ce contrat d'écoute et cette proximité. Et peut-être qu'avec le podcast, ce qui est nouveau, c'est cette écoute un peu singulière au sens où on est seul à écouter au moment où on écoute, et ça ne fait que ajouter une couche au lien que crée le son depuis qu'on fabrique des émissions.
Merci beaucoup pour votre réponse, Thomas Baumgartner. Alors là, vous parlez d'une pratique d'écoute un peu peut-être singulière du podcast en ce qu'elle se fait moins justement en communauté. Alors c'est parfait, vous nous anticipez, on parlera justement de cette question plus tard. Et là, pour l'instant, nous aimerions peut-être passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire non du rapport du producteur à son auditeur, mais du rapport de l'auditeur au podcast qu'il écoute, avec peut-être la question d'un public qui devient plus consommateur, voire, si je puis me permettre, plus consumériste, avec l'arrivée du podcast en masse. Alors, notre première question, là, ici, s'adresse à Marine Beccarelli. Donc, vous avez beaucoup travaillé sur la question de la radio nocturne, qui est le sujet, entre autres, de votre thèse. Et lorsque vous découvrez adolescente les programmes de nuit, vous dites être marqué par un ton différent de celui des programmes diurnes. Et en effet, le public noctambule semble différer à bien des égards. Vous en parlez vous-même dans une interview lorsque vous évoquez vos années de classe préparatoire à Lyon. On s'éloigne alors de l'idée d'un média de consommation qui enchaîne rapidement de programme en programme, puisque la nuit laisse le temps de prendre son temps. Et l'on ne raisonne plus dans une idée de programme à succès, si bien que les chiffres d'Audimat, bien souvent, ne sont pas divulgués. Alors j'en viens à ma question, excusez-moi de la digression. Alors qu'aujourd'hui, les podcasts sont proposés en grande quantité et peuvent s'écouter, sans modération, dans une logique parfois un peu consumériste, diriez-vous que la radio, et en particulier la radio de nuit, puisque c'est le domaine où vous êtes spécialiste, échappe à cette logique de consommation ?
Alors déjà, pour parler de la radio de nuit, je peux signaler que j'ai étudié la radio de nuit donc vraiment à travers son histoire. Et on peut commencer par dire qu'aujourd'hui, finalement, la radio de nuit, elle n'existe quasiment plus nulle part, sur aucune station, la radio de nuit en direct, puisque toutes les stations généralistes, à partir de minuit ou 1h du matin, aujourd'hui, elles proposent des rediffusions des émissions de la veille, et les stations musicales, elles proposent plutôt des flux musicaux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et effectivement, pendant de très nombreuses années, jusqu'au début des années 2010, en gros, la radio de nuit proposait un autre espace avec un autre rythme. Et pas seulement parce que les auditeurs de la nuit sont en soi forcément différents des auditeurs de la journée, mais ça peut parfois être les mêmes auditeurs, mais aussi parce qu'ils sont dans une attente qui était généralement différente, puisqu'il y a plusieurs raisons d'écouter la radio la nuit. On peut l'écouter parce qu'on est insomniaque et qu'on a du mal à dormir, donc ça nous fait une compagnie. Parfois, on peut, la nuit, comme ça exacerbe les sensations, les angoisses, on peut parfois écouter la radio donc pour soulager ses angoisses, notamment dans des moments d'insomnie. Les travailleurs de nuit ont aussi beaucoup écouté la radio pour que le temps passe un peu plus vite, pour avoir une compagnie qui leur... tout au long de leur activité. Et du coup, par rapport à cette question de cette radio de nuit qui échapperait à une logique de consommation, je pense que, en tout cas, du coup, la radio de nuit n'était pas directement en concurrence, si je puis dire, avec les podcasts pendant la plupart de son histoire. Je ne sais pas si je parlerai d'un public consumériste avec l'écoute des podcasts, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il y a une diversité beaucoup plus grande, enfin une offre très très variée de podcasts et d'émissions de radio à destination du public. Et même si la radio de nuit n'existe plus en direct en tant que telle, les auditeurs qui le souhaitent peuvent par exemple écouter des podcasts la nuit. Et voilà, ce qui change, c'est qu'ils vont plus écouter des émissions qui étaient faites spécifiquement pour ce moment de la journée, pour ce moment nocturne, et qui, dans le ton et dans le rythme qui était adopté, avait une connotation nocturne et donc qui pouvait aborder des sujets parfois plus un peu transgressifs, à la marge, avec une liberté de ton plus grande. Je pense aux stations généralistes nationales, par exemple, qui se permettaient des choses qui étaient peut-être pas forcément... qu'on n'aurait pas pu entendre la journée, avec des thématiques, un ton plus libéré, des thématiques plus transgressives, etc. Mais voilà, c'était vraiment un autre espace, mais c'était aussi à une époque, notamment jusque, si vous voulez, jusqu'à la fin des années 80, la radio de nuit avait un peu le monopole des médias la nuit, puisque jusqu'à la fin des années 80, en France, on n'avait pas de télévision nocturne. Et une personne qui, parce qu'elle était insomniaque ou parce qu'elle était artiste et qu'elle vivait la nuit ou parce qu'elle travaillait la nuit, qui voulait avoir un média qui lui tenait compagnie, la seule possibilité, c'était d'écouter la radio et la radio en direct. Avec cette voix qui leur parlait directement dans l'oreille et cette proximité aussi souvent plus grande vraisemblablement qui se tissait entre les voix de la nuit et les auditeurs de la nuit qui parce qu'ils écoutaient dans un moment où ils étaient souvent plus disponibles du coup pouvaient s'attacher encore plus fortement parfois aux animateurs, aux animatrices, aux producteurs des émissions. Du coup, en tout cas, la radio de nuit, dans la majorité de son histoire, elle échappait vraiment à toute logique de consommation, parce que c'était vraiment une radio dont le but était de tenir compagnie aux gens de la nuit, qui peuvent être très variés encore une fois. Et les stations, donc la majorité des stations proposaient des émissions en direct, ne tenaient pas forcément en compte le fait que ça concernait évidemment une part beaucoup plus petite de la population, puisqu'il y a toujours eu beaucoup, beaucoup moins d'auditeurs qui écoutaient la radio la nuit, mais on choisissait de leur proposer quand même des programmes avec un ton spécifique et en direct. Et du coup, ça faisait sortir aussi, par exemple, les radios privées, Europe 1, RTL, proposaient des émissions en direct, même si la plupart du temps, il n'y avait pas de publicité sur ces antennes commerciales la nuit, puisque c'était un espace où, même si Médiamétrie faisait des mesures d'audience pour les heures nocturnes entre minuit et 5 heures du matin, les chiffres de ces heures nocturnes n'étaient pas communiqués officiellement au public, et du coup, ça faisait de la nuit un espace non rentable, et un espace un petit peu, du coup, en dehors des logiques de consommation en ce qui concerne la radio privée.
Merci beaucoup Marine Beccarelli pour cette réponse très riche, vraiment très riche. Et vous me permettez merci, en tout cas c'est génial de vous écouter. Mais au-delà de ça, c'est très intéressant ce que vous nous dites parce que justement, puisque la radio de nuit a tendu ou désormais a quasiment disparu des ondes radiophoniques, on peut se demander si justement l'audimat et la nécessité de faire de l'audimat, de faire du chiffre, n'a pas pris une place plus importante dans les dynamiques radiophoniques, et donc forcément par extension également au podcast, puisque les deux sont on ne sait pas encore s'ils sont des frères ennemis, mais en tout cas ils sont frères. Et donc ça me permet de rebondir et de poser une question à Thomas Baumgartner, parce que en fait il semble difficile d'imaginer que les chiffres à la radio ou sur les podcasts n'impliquent pas une nécessité de rentabilité, puisqu'évidemment ces chiffres sont liés à de la publicité et donc à de l'argent gagné pour la société de production, dans le cas du podcast, ou bien pour la société de radiodiffusion dans le cas des ondes. Donc il nous est paru important de se demander si, bon, c'est une question un peu rhétorique, mais dans quelle mesure en tout cas la pression de la rentabilité a une influence dans l'un ou l'autre média. Et Thomas Baumgartner, ce qui est assez intéressant chez vous dans votre parcours, c'est que d'abord, à l'image de ce que disait Marine Beccarelli, la plupart de vos émissions sur France Culture avaient lieu la nuit, hormis les matins de France Culture, mais ce n'était pas vraiment une émission à vous, en fait. Mais donc, est-ce que justement, vous, d'abord, première question pour un peu rebondir sur ce que disait Marine Beccarelli, cet espace de la nuit, vous aussi, vous le ressentiez comme un espace de liberté plus grande, puisque vos émissions ont attrait à la création. Donc, est-ce que vous pensiez que cet espace qui, de la nuit, vous donnait une plus grande latitude à produire des choses qui vous ressemblaient? Et ensuite, est-ce que vous qui avez connu les deux médias, à la fois la radiodiffusion et le podcast, est-ce que vous sentez une pression de l'audimat différente, d'abord dans la manière dont elle est mesurée, parce que les dynamiques de rentabilité sont différentes. En tout cas, quelle est la différence que vous noteriez sur l'influence de l'audimat entre la radio et le podcast?
Alors, pour faire suite à ce que disait Marine Beccarelli à l'instant, oui, quand je travaillais pour des émissions qui étaient fabriquées pour être diffusées la nuit, qui étaient parfois en direct, il y avait un sentiment d'être effectivement un peu en dehors. C'est le sentiment qu'on vit quand on vit la nuit, c'est d'être en dehors du monde de tout un chacun et d'être dans une sorte de bulle qu'on partage, bulle ouverte. Voilà, quand on fait de la radio, on veut que les gens entrent dans la pièce, quoi, ou qu'on entre dans la leur. Mais donc, il y avait ce sentiment-là. Est-ce que c'était un sentiment d'avoir plus de liberté? En fait, moi, je n'ai pas demandé à faire des émissions la nuit. On m'a proposé un jour de réfléchir à une émission qui est devenue Les Passagers de la Nuit. Et on m'a dit qu'elle aurait lieu la nuit. Mais si on m'avait dit qu'elle était à 18h, moi, j'étais prêt à tenter de faire une émission de création à 18h. Alors, ça ne se fabrique pas de la même manière. Effectivement, naturellement, en termes de rythme, en termes de couleur, ben, si on est diffusé à 23h, on se dirige vers une certaine esthétique et on fait des choix en fonction aussi de l'heure de diffusion. Alors même quand c'était Les Passagers de la Nuit, il y avait déjà le podcast à l'époque hein, de rattrapage, donc on savait que les gens n'écoutaient pas forcément que en direct, mais on y réfléchissait en tant qu'émission diffusée à 23h. Donc le fait d'être la nuit, c'est aussi le choix d'une direction de programme, et c'est aussi le choix de se dire on tente des choses peut-être étonnantes, différentes, parce que c'est vrai que la radio est un média d'habitude. La radio est un média qui fonctionne par refrain. Il faut des régularités à l'intérieur des émissions et à l'intérieur d'une grille de programme. Donc être trop en contre-pied à une heure où les gens sont habitués à avoir du débat de société ou qu'on leur parle d'actualité ou même d'autres choses, mais d'une manière un peu plus cadrée, plus traditionnelle, ça peut se comprendre. Donc c'est plus prendre la nuit comme un moment d'exception parce qu'on est disponible. Donc voilà. Après, est-ce que j'ai eu plus le sentiment de faire des émissions qui me ressemblent parce que j'étais libre, parce qu'il y avait cette possibilité, cette indication de liberté? Je choisissais pas de faire des émissions qui me ressemblaient. J'ai toujours dit que la radio n'est pas... en tout cas, je pense que la radio n'est pas, de manière générale, un art, même s'il existe l'art radiophonique, mais c'est un angle spécifique, et la radio est quelque chose qui passe, qui est fait pour passer dans plein de sens du terme. Donc on n'est pas là pour faire pour encadrer des émissions et les regarder comme elles sont belles affichées sur un mur. Donc je mettais des choses qui m'intéressaient ou qui m'intriguaient ou que je ne connaissais pas, et effectivement peut-être que c'est cet espace là qui finalement, voilà, j'ai fini par ressembler aux émissions que je faisais plus que l'inverse, je pense. Ça m'a nourri beaucoup les 10 années à France Culture, et aussi du fait de cette, pas injonction, mais autorisation à aller voir du côté des marges, au sens le plus large possible, des marges dans la forme d'expression radiophonique. C'est pas un jugement de valeur que de dire ça. Tout et donc...
Oui, je suis vraiment désolée de vous couper en pleine phrase, c'est juste que voilà, le temps file très vite, et c'est passionnant de vous écouter, mais justement, en fait, c'est cette question des marges que vous venez d'évoquer, justement, ça me fait repenser à ce que vous disiez tout à l'heure avec Marine Beccarelli sur l'idée de la communauté, justement, entre isolement et rassemblement. Et donc, tout d'abord, j'aimerais poser une question à ce propos, justement à Marine Beccarelli, puisque le poste, enfin, on imagine bien cette image d'un poste radiophonique en tant que rendez-vous historique dans les foyers français, un espèce d'immense poste qui trône de manière un peu ostentatoire dans le salon, qui envahit l'espace à la fois physique et sonore devant lequel on se rassemble pour écouter les actualités. Alors Marine Beccarelli, est-ce que cette image vous paraît définir la radio en tant que média, c'est-à-dire un média qui cherche à parler, non pas à des individus, mais à de véritables communautés d'auditeurs ?
Alors je pense que j'ai déjà un petit peu répondu à cette question tout à l'heure. Je pense que l'image du poste de radio imposant qui trônait au milieu des salons dans les familles, c'était vraiment plutôt les premières décennies de l'histoire de la radio, on va dire jusqu'au milieu des années 50, c'est une réalité et c'est vraiment du coup un média. On se rassemble autour de la radio, même s'il n'y a rien à voir et c'était simplement pour écouter, mais du coup, des différentes générations, différents membres de la famille avaient des rendez-vous comme ça, familiaux, on écoutait les informations, on écoutait des pièces, des dramatiques radiophoniques, des retransmissions de concerts, etc. Mais à partir dès le milieu des années 50 et surtout à partir des années 60, cette idée d'une radio qui s'adresserait à des groupes plutôt qu'à des individus, elle bat un peu de l'aile puisque à partir de l'apparition donc des transistors au début des milieu des années 50, qui vont prendre une place de plus en plus importante et qui permettent d'avoir plusieurs postes au sein d'un même foyer. Et donc, ça permet d'individualiser l'écoute. On peut emmener son transistor dans sa chambre à coucher. On peut l'emmener avec soi en voiture. Il y a aussi l'autoradio qui se développe à partir du milieu des années 50. On peut l'emmener dans la salle de bain, etc. Et du coup, ça crée un rapport dès ces années-là, dès les années 50, les années 60, ça crée un rapport intime et un lien direct avec les individus qui sont attachés à leur radio et qui peuvent écouter seuls les programmes de leur choix. Après, ça ne veut pas dire que du coup la radio n'a pas pensé à s'adresser aussi à des groupes de manière générale. Mais à partir de ce moment-là aussi, par exemple, c'est à partir de la fin des années 50 qu'on va avoir les premières émissions vraiment pour les jeunes, notamment « Salut les copains » sur Europe numéro 1, qui propose de la musique à l'heure de la sortie des écoles, avec des émissions, de la musique yéyé, des interviews de stars, etc. Et progressivement, on va avoir différents... Disons, le média va être pensé pour s'adresser à différents types d'auditeurs, différentes communautés d'auditeurs et différentes générations. Mais je pense qu'il y a toujours eu quand même un lien intime qui a pu se créer entre les auditeurs et les producteurs, productrices de radio. Et que ça a longtemps été beaucoup moins vrai pour la télévision, c'est la télévision qui, à partir des années 50, des années 60, est massivement arrivé progressivement de plus en plus dans les foyers français et a pris la place de ce qui était auparavant la radio et qui est beaucoup plus un média familial et collectif qu'on regarde à plusieurs, alors que la radio, je pense que c'est un média ça fait très longtemps qu'elle s'écoute plutôt seule, la radio.
D'accord, merci.
Et du coup, le podcast, c'est finalement un prolongement... sous une autre forme, mais ça ne fait, à mon avis, que prolonger cette écoute de la radio qui était déjà individuelle depuis longtemps.
D'accord, je vous remercie pour cette réponse. D'ailleurs, ça me permet de rebondir parce que, effectivement, vous parliez de transporter un peu le transistor. C'est assez drôle, cette image, parce que on se figure, je pense en tout cas, une écoute différente en fonction de ce qu'on écoute. Moi, par exemple, j'ai découvert la radio assez tard dans ma vie et je me suis rendu compte que je trouvais ça curieux, voire peut-être dénaturant, que d'écouter la radio sur mon téléphone. Je trouvais ça un peu peut-être... J'avais l'impression de toucher à une sorte de monument que je venais perturber avec mon petit smartphone qui ne méritait pas de diffuser ça. Et, et donc, ça me permet de rebondir sur ce que vous dites parce que il y a le podcast, il y a la radio, deux médias qui finalement sont voués à être diffusés, à être amplifiés par une enceinte quelconque. Mais on peut se demander tout de même si ces deux sons sont à ces deux types de diffuser un son, de produire des sons, sont à transporter et à écouter de la même façon. Donc là, on voulait venir sur la question de comment l'auditeur écoute et comment il écoute en fonction du podcast ou de la radio. Et justement, concernant la radio, on sait qu'elle aurait souffert durant le premier confinement pour certaines radios de l'absence de déplacement des usagers. Hein, ceux-ci utilisaient la radio pour rendre leur trajet plus agréable ou même pour occuper l'espace sonore de leur voiture. Et donc, finalement, on sait que quand on écoute sur un trajet, quand on écoute en conduisant, la disponibilité qu'on accorde à ces sons est moindre, forcément, parce que ce sont plus des sons de fond que réellement des sons auxquels on se rend disponible, en fait. Et donc, la prochaine question serait pour vous, Thomas Baumgartner, ce qui va me permettre un peu de revenir sur ce que vous disiez, parce que vous parliez finalement de vous, à quel point vous deveniez ce que vos productions étaient. Et j'ai trouvé cette image très belle d'abord, félicitations, mais aussi très intéressante. Parce que finalement, est-ce que vous, en tant que producteur, on va passer de l'autre côté, comment vous vous imaginez votre auditeur? Comment vous vous imaginez votre écouteur vous écouter? Et ce thème, vous l'avez un peu évoqué dans l'hypothèse du Baobab, un livre que vous avez publié en 2019 chez Hippocampe Édition, où vous disiez « Toujours penser que certaines personnes écoutent tout, se rappeler parfois que certaines personnes n'entendent rien, ne pas parler plus fort pour autant. » Est-ce que donc, Thomas Baumgartner, vous avez beaucoup réfléchi à cette question de qui était derrière le poste et peut-être où est-ce qu'il vous emmenait, vous, votre voix, si j'ose dire. Est-ce que vous pensez à cela dans la manière, lorsque vous produisez des sons?
En fait, on y pense tout de suite et on l'oublie tout de suite après. Il vaut mieux. On est censé faire passer un moment, une interaction, soit un récit, soit une interview, soit un reportage. Et donc, il faut se concentrer sur ce qu'on fabrique au moment où on le fait, en se basant sur certaines habitudes ou certaines règles de fabrication. Mais je pense qu'il faut... Ouais, il faut presque l'oublier. Ce que disait Marine tout à l'heure est juste. On se figure une personne qui nous écoute et c'est suffisant. Et après, en fait, ça nous échappe. En fait, je pense que c'est le grand. Pour moi, c'est la grande règle, c'est que on a beau préparer, ficeler, on a beau faire des plans et les conducteurs d'émissions, on a beau y mettre d'ailleurs tout son cœur dans ce tricotage le plus précis ou maîtrisé possible, que de toute façon, une fois que c'est terminé, une fois que c'est parti, ça nous échappe complètement. Et donc, effectivement, les gens sont dans leur voiture, les gens sont dans le sport, les gens sont chez eux, les auditeurs s'occupent de leurs enfants, s'occupent de la vaisselle, s'occupent de vivre, en fait. Pour moi, la grande force de la radio, c'est ça, en fait. Et que c'est sale. C'est sale au sens où on a beau envoyer quelque chose de plus maîtrisé, de toute façon, ça arrive à destination en morceaux. Alors, les gens, parfois... refont le puzzle sans problème et la plupart du temps c'est une réception par bribes et c'est tant mieux. Comme quand j'étais en école journaliste, on me disait fallait bien penser que de toute façon dans un flash, un journal, les gens retiennent essentiellement une info sur quatre. Voilà, c'est une bonne leçon et une bonne leçon de modestie, et pour autant il faut s'y mettre à 100%, il faut s'y mettre à fond pour que justement ce soit cette info sur quatre qui soit reçue et pas une sur trois. Donc voilà, je ne me figure pas vraiment dans quelle situation sont les auditeurs parce qu'on se figure pas, il ne faut pas se figurer une foule, sinon on n'arrive plus à faire grand-chose. Donc voilà, c'est le paradoxe d'un média de l'intime, que ce soit la radio ou le podcast, ça reste un média de l'intime. Et donc dans l'intimité, chacun est différent et donc il y a 1000, 100 000, 1 million d'écoutes.
Merci pour votre réponse, ce qui est d'ailleurs, c'est fantastique parce que vous nous donnez toujours la réplique finalement, vous deux, merci beaucoup. En fait, là ce que vous dites est fascinant parce que finalement vous êtes en quelque sorte, contrairement à d'autres médias, dépossédé de ce que vous produisez et vous laissez la part belle à l'auditeur d'en faire un peu ce qu'il veut. Ce que vous dites, il y a des bribes, il retient une information sur quatre, il choisit de prendre ce qu'il veut, mais donc... il se retrouve un peu maître de la production sonore, et donc il se met à peut-être à, à peut-être percevoir quelque chose de radicalement différent et
Mais justement différent. Là-dessus, moi, je veux juste préciser une chose, c'est que effectivement, la grande différence, depuis notre conversation, il y a ça, cette différence entre radio et podcast, et pour faire la boucle avec cette question du consumérisme, il y a quelque chose qui est essentiel. C'est effectivement, quand la radio était peu concurrencée, et particulièrement la nuit, il y avait la possibilité d'être dans une logique de l'offre. Quand vous parlez de consumérisme, effectivement, de devoir savoir qui est la cible de tel ou tel podcast, de tel ou tel programme, ça, c'est effectivement un risque de retourner cette logique de l'offre, et que cette logique de l'offre quitte aussi ce qui est déjà une tendance qui n'a rien à voir avec le podcast, qui est déjà plus ancienne, parce que la concurrence de la radio par différents médias, elle est plus ancienne que le podcast, mais cette logique de devoir quitter ou de ne plus être suffisamment dans une logique de l'offre, il faut réussir à ce que le milieu du podcast se structure suffisamment pour qu'on puisse être encore dans une logique de proposition, et pas simplement dans une réponse a priori à une possible attente d'un possible public. C'est évidemment logique que ça se constitue comme ça. Aujourd'hui, le monde du podcast professionnel et dans lequel je suis aujourd'hui avec ma société, avec mon studio Wave Audio, on est obligé de répondre soit à des clients, soit à des publics. Et on doit en tout cas pas forcément de communauté d'ailleurs, mais on doit les nommer, on doit les envisager. Néanmoins, aujourd'hui, il y a un enjeu, c'est que le milieu du podcast, de la production de podcast professionnel, est le seul endroit en France de l'audiovisuel qui n'est pas aidé par un système d'aide. Et aujourd'hui, quand on fait du cinéma ou quand on fait de la production télévisée, il y a des aides qui aident les structures de production, qui aident les auteurs. Aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place pour le podcast et on peut espérer, en tout cas, moi j'espère, que ça permettra de stabiliser, que ça donnera une sécurité et une forme de filet aussi de sécurité minimale, hein, bien entendu. C'est pas un financement public pour le podcast que je demande, mais de la même manière qu'il existe un CNC pour l'image, pourquoi pas un CNC pour le son. Et ça pourrait permettre d'envisager une production professionnelle, plus aventureuse, elle l'est déjà, mais en tout cas d'être dans une proposition, dans une innovation éditoriale, et sans doute qui contrebalancerait ce que vous désignez vous comme une forme de consumérisme. Moi, je trouve ça juste, c'est cohérent aujourd'hui de savoir pour qui on produit le podcast. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une progression envisageable et qui, j'ai l'impression, peut répondre à une partie des enjeux très justes que vous soulevez tout à l'heure.
Oui, merci beaucoup pour votre réponse, Thomas Baumgartner. Donc, c'est vrai que ce que vous rappelez, à juste titre, c'est que le milieu radiophonique, que ce soit pour les ondes ou pour le podcast, est aussi un espace qui échappe toujours un peu du fait de cette partialité des sens. On est livré seulement à l'écoute, il n'y a pas de totalité, et pourtant. J'en profite pour évoquer cette idée de liberté, l'idée d'un média qui resterait toujours mineur. Alors qu'on s'entende bien, pas mineur au sens de qualité, mais mineur plutôt au sens deleuzien. Une minorité d'un média qui peut-être est toujours à rebours, qui évoque ce que les autres médias n'osent pas évoquer. Et c'est vrai que dans notre réflexion entre les grands pôles que sont la radio et le podcast, c'est vrai qu'on tient quand même à en profiter pour rappeler que ce ne sont pas deux pôles complètement séparés. Il ne faut pas oublier la complexité, la variété intrinsèque des deux médias, puisque la radio comme le podcast sont par essence tous deux polysémiques, entre radio célèbre et ondes cachées, radio de parole, radio de musique, radio de divertissement, pardon, et radio de réflexion. Et de même pour le podcast, puisqu'on peut trouver tout autant des contenus discursifs que des contenus qui visent peut-être plus au fond sonore. Dans la radio, comme dans le podcast, il y en aurait donc à la fois pour le grand public comme pour l'auditorat de niche, bien que... Comme vous le rappeliez, l'auditorat nous échappe un peu toujours, enfin, ce qu'il fait du podcast. Et voilà donc là où je veux en venir, après encore une fois avoir un petit peu digressé. Est-ce que l'on peut déterminer un média plus populaire que l'autre ? Est-ce que, entre la radio et le podcast, je veux dire, est-ce que la radio demeurerait une sorte d'aristocratie de la voix qui serait peut-être porteuse d'une réflexion traditionnellement plus poussée que dans les podcasts ? Alors je pose la question à Thomas Baumgartner, mais également à Marine Beccarelli. Vous deux qui avez un peu navigué entre radio et podcast, vous qui avez fait l'expérience des deux, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de popularité et d'aristocratie du média ?
Je vais répondre, mais je vais laisser Marine la parole à Marine ensuite, parce que je ne sais pas si j'ai beaucoup d'arguments là-dessus. Je pense que la radio est populaire. Il y a une aristocratie de la radio, si on veut, d'une certaine manière. Une radio plus noble qu'une autre, mais globalement, la radio est populaire. C'est un média d'une grande souplesse, d'une grande légèreté. Il n'existe pas de droit d'entrée. Donc la radio est populaire. Et il faut faire attention quand on parle de radio de ne pas oublier la FM en général, qui est quand même. Qui est populaire, voilà, de base. Le podcast, par contre, en fait, a aidé à découvrir des questions qui le sont et qui n'étaient pas traitées suffisamment par la radio, et peut-être par la radio noble, entre guillemets. Les questions de genre, les questions de féminisme. L'essor du podcast est lié justement à la popularité massive de certaines questions, de ces questions-là, qui, il y a 3, 4 ans, 5 ans, ont été saisies par les gens qui l'ont fait par le biais du podcast. Parce qu'il n'y avait pas d'espace ailleurs. Donc, en ce sens, il y a cette popularité du podcast. Et après, je pense que, malgré tout, il y a des productions à imaginer en podcast natif. Il y a un terrain encore à gagner auprès de populations qui n'ont pas eu l'envie d'aller au podcast natif pour le moment. Mais bon, il faut quand même savoir que le podcast qui marche le plus en replay, c'est les grosses têtes. Donc la question de la popularité du podcast, je ne pense pas que ce soit aussi séparé, en tout cas, la résolution.
Oui, bien sûr. Merci de rappeler qu'il n'y a pas qu'un clivage binaire entre radio et podcast et que la situation tout de même est bien plus variée et compliquée. Sinon, ce serait un peu manichéen et ennuyant.
Marine Beccarelli, oui. Peut-être votre avis sur la question ?
Oui, bah, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Thomas Baumgartner. Je pense que la radio reste vraiment un média populaire, même si les chiffres d'audience ont tendance à diminuer. La radio reste quand même un média très accessible. Alors, il y a des stations effectivement plus considérées plus nobles ou plus sérieuses ou plus aristocratiques, si on peut dire, que d'autres. Mais effectivement, il y a plein de... Il y a des stations qui s'adressent à des publics très différents. Et je pense que la radio, enfin, le podcast qui n'est que natif, le podcast tel qu'il se développe beaucoup ces dernières années, touche peut-être, je ne sais pas s'il y a des études sociologiques là-dessus, mais touche peut-être une frange moins large. Enfin, il y a énormément de monde qui écoute du podcast. Les podcasts natifs sont devenus très populaires. Il y a une offre très diversifiée en termes de thématiques. Et le podcast a effectivement permis de parler de thématiques comme le féminisme, le genre, etc., qui n'avaient jusqu'alors pas de place sur les stations de radio traditionnelles. Mais je pense que c'est quand même... ça reste encore... une pratique, l'écoute du podcast qui n'est que natif, qui est réservée quand même à certaines catégories de population plutôt aisées, je pense. Enfin, je ne sais pas s'il y a des études qui existent là-dessus, mais je pense que la radio conserve une dimension qui reste vraiment très populaire, et voire plus populaire que le podcast, en tout cas dans son accessibilité et dans les générations et les catégories sociales que ça va toucher. Alors les jeunes écoutent beaucoup plus, je pense, du podcast natif que la radio, et la radio particulièrement directe. Mais voilà, en termes d'âge, je pense que ça c'est une question qui est pas du tout... Enfin, il n'y a pas une distinction très forte entre les deux, et on ne peut pas dire que la radio demeure... un lieu où la parole est plus noble, etc. C'est pas forcément vrai. Enfin, ça dépend évidemment des stations.
Oui, merci beaucoup. Vous parliez de podcast féministe, et j'en profite d'ailleurs pour rappeler que vous avez vous-même sorti, enfin coproduit, une série de podcasts intitulée « Laissez parler les femmes » que nous conseillons vivement à notre auditorat d'écouter.
Merci beaucoup.
C'est normal. On peut continuer sur cette question. Vous parlez à juste titre du fait que finalement le caractère populaire ou non du podcast et de la radio dépendent bien plus que dépendent bien plus d'une question générationnelle qu'une question véritablement simplement d'être populaire ou pas. Et donc de base, on souhaitait vous poser une question qui était celle du clivage socio-économique que représentait la radio, mais je pense que cette question, elle est à poser d'une manière plus différente. Parce que effectivement, à la radio, comme on l'a dit déjà, hein, il y a un horaire, il y a une durée. Il faut être présent, il faut être présent mentalement, présent physiquement. Et écouter la radio, c'est un peu se rendre disponible à, si on veut écouter, entre guillemets, correctement la radio, être bien disponible à ce qui a été fait. Et donc, on pourrait de prime abord, comme nous l'avions fait, comparer l'écoute d'une émission radio à quelque chose d'assez bourgeois, si je puisse utiliser cette expression, de la lecture du journal. Ce rendez-vous aurait peut-être un caractère bourgeois, osons les mots socio-économiques. Mais donc, cette question-là, je la trouve pas très appropriée avec l'angle vers lequel on est arrivé. J'aurais plus une question, puisque vous y avez répondu finalement en évoquant cette différence générationnelle. Donc je préférais vous poser une question peut-être plus adaptée à vos réponses, enfin en tout cas à votre réponse, Marine Beccarelli. Est-ce que vous accepteriez de creuser avec nous cette idée de... vous qui êtes spécialiste de l'histoire de la radio, votre opinion sur les évolutions récentes de la radio et du podcast? Pensez-vous que la nouvelle génération d'écoutants, qui se rendent disponibles à la radio et au podcast, va avoir une écoute différente? Est-ce que finalement, le fait que les jeunes générations écoutent davantage le podcast que la radio, est-ce le signe d'une évolution vraiment profonde, de fond, dans le sens que les podcasts touchent plus la jeunesse dans les thèmes abordés, ou est-ce une évolution purement peut-être technologique, comme nous l'avons dit, avec le fait que la radio paraisse être un rendez-vous plus fastidieux, plus ancré, plus traditionnel. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire que les podcasts natifs, dans la diversité des thèmes qu'elles ont abordés avant les stations plus traditionnelles, ont pu aller justement sur des terrains qui parlaient peut-être davantage aux jeunes générations, avec une forme différente, peut-être effectivement du coup moins contrainte et plus libre que sur d'autres stations. Et donc, il y a peut-être d'une part une autre manière de s'adresser aux auditeurs qui peut peut-être plus toucher les jeunes générations, et je pense que c'est aussi... et les moins jeunes. Et je pense que c'est aussi effectivement une question technologique, du fait que les podcasts s'écoutent essentiellement à partir des smartphones sur les applications de podcasts, et que je pense que les jeunes générations ont beaucoup moins encore chez eux des vrais postes de radio à l'ancienne, enfin l'objet de chaînes-fi, de postes de radio, mais écoute davantage la radio, peut-être même de manière indifférenciée, la radio et des podcasts natifs, mais souvent via les applications de podcasts, et que la radio en direct, l'écoute de la radio en direct a peut-être tendance à diminuer, mais qu'on fait davantage, du coup, on se construit davantage une radio à la carte, enfin une écoute à la carte, avec des émissions à la demande, etc. Et pour rebondir par rapport à ce que disait Thomas Baumgartner tout à l'heure, quand il disait que quand on l'écoute, elle est forcément brouillée parce que les gens peuvent être en train de faire autre chose, ils vont retenir une information sur quatre, etc. Je pense qu'effectivement, c'est vrai, ça a toujours été le cas dans la radio. La radio était parfois qu'un fond sonore. Mais ce qui change aussi peut-être avec le podcast, c'est que justement, avec cette écoute au moment où on le souhaite via le podcast, je pense que les auditeurs se rendent plus disponible, et c'est pas simplement ils allument la radio, ils ont la radio en fond et ils font autre chose à côté et ils vont écouter plus ou moins, ils savent même pas forcément au moment où ils allument la radio quel programme va être diffusé, alors que quand on appuie sur play, qu'on a choisi son l'épisode du podcast qu'on veut écouter, qu'on appuie sur play, même si on fait autre chose en même temps, en principe si on a choisi de l'écouter à ce moment-là, c'est qu'on a choisi d'y donner une bonne part de son attention, et donc on va peut-être écouter oui, de manière plus concentrée et qu'on va davantage retenir des choses de ce qu'on a entendu.
Merci beaucoup pour votre réponse, Marine Beccarelli. Alors, bon, nous aurions aimé poser beaucoup d'autres questions, mais le temps file et c'est bientôt la fin de cette table ronde. J'aimerais juste finir, à défaut de pouvoir vous poser une question, Thomas Baumgartner, sur l'un de vos mots donnés lors d'une interview, puisque nous parlions d'un décalage générationnel, et puis donc finir sur le fait qu'il ne faut pas oublier que la radio, c'est aussi un média d'apprentissage, d'évolution, de connaissance de soi. Vous-même, vous dites être devenu, je cite, « adolescent avec France Culture ». Malheureusement, nous devons déjà vous laisser. C'est bientôt la fin de cette table ronde. Nous espérons avoir participé à enrichir la réflexion sur l'auditorat au sein du média radiophonique et au sein du podcast, ainsi qu'avoir exploré les apparentes conflictualités qui existent entre ces deux perspectives. Nous remercions encore chaleureusement nos deux invités, Thomas Baumgartner, Marine Beccarelli. Mille merci à vous, c'était un plaisir de vous recevoir.
Et peut-être avant de vous quitter si brutalement, est-ce que vous auriez une dernière chose à dire, une dernière réflexion à nous faire parvenir ?
Une dernière réflexion sur la radio, bah,
non, mais Thomas Baumgartner, parce que nous sommes un peu dépêchés de finir, mais finalement il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous pourriez revenir rapidement? Oui, ouais, vous savez, c'est les aléas du direct. Est-ce que vous pourriez revenir cette expression d'être adolescent? Moi, cette expression, elle m'intrigue parce que la première fois que je l'ai découverte, c'était une expression utilisée très péjorativement, en fait, pour décrire quelqu'un peut-être d'ancré dans l'enfance. Est-ce que vous pensez, justement, pour finir sur ce conflit, pseudo-conflit générationnel, vous pensez que la radio est un média, justement, qui permet de rester un peu connecté avec la jeunesse ? Est-ce que vous pensez que c'est un média toujours frais, qui permet toujours de se rendre disponible à la nouveauté ?
Alors, sur l'histoire de adolescent, je me souviens plus où j'ai dit ça, mais je crois que j'ai dit que j'ai connu France Culture. C'était pour une manière de le dire, j'ai connu à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte, grosso modo. Ah. C'était à ce moment-là que j'ai. Ça m'a pas permis d'être adolescent. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on attend de France Culture, mais c'est plutôt d'être dans un passage, voilà, vers l'âge adulte que j'ai connecté à France Culture. Et après en fait, il y a mille manières de faire de la radio et de faire du podcast. Donc effectivement, peut-être qu'aujourd'hui précisément, entrer dans le podcast et se dire, juste on s'était dit, pour se poser des questions, pour savoir à qui on s'adresse et de préférence s'adresser à des gens dont on se dit qu'ils continueront à nous écouter. Ne pas se déconnecter de la jeunesse, c'est se garantir aussi une écoute qui peut se prolonger à travers les années. Donc c'est peut-être ça. Mais je pense que c'est plus une éthique à se donner, quelle que soit notre activité, quel que soit notre média ou notre métier. Il y a une manière de rester agile, de rester attentif, aux formes, aux sujets émergents. Moi, quand j'ai travaillé à Nova, j'ai travaillé avec des gens qui étaient des anciens de la revue actuelle, qui n'existe plus depuis longtemps, mais j'ai senti qu'il y avait ça chez eux. Voilà. S'intéresser à ce qui est nouveau et intéressant, c'était le sous-titre d'actuel. Et je pense que c'est une forme d'éthique quand on est dans les médias de manière générale.
Merci.
Au nouveau et à l'intéressant.
Merci beaucoup pour votre réponse, Thomas Baumgartner. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Il nous faut vous quitter. C'était un immense plaisir de vous recevoir, de vous entendre. C'était même émouvant pour nous, je dois dire, de voir votre avis éclairé sur la radio et son évolution aujourd'hui. Donc, encore une fois, nous vous remercions chaleureusement pour votre vision éclairée de cette problématique nourrie de votre expérience riche de ces milieux. Mille merci. Donc je rappelle, nos invités étaient Thomas Baumgartner et Marine Beccarelli. Nous laissons désormais place à la tracklist
merci
de
à vous.
Joseph.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir et bonne journée. Merci.
Au revoir.
L'FM la plus musicale le matin.
Transistor.
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 La journée de la radio fait son grand retour sur Transistor.
Transistor.
La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor, en direct toute la journée.
Vous appelez et vous raflez toutes les 10 minutes le double album de Serge Gainsbourg.
Que vous soyez partisan des ondes.
Est-ce que vous sentez les ondes ?
Partisan du podcast.
Elles sont là, elles sont partout.
Oh non, pas ça.
Ou elles sont dans les campagnes, dans les villes, elles sont sur les réseaux sociaux.
Quelle humidité.
Des tables rondes, des créations, des fictions. C'est dans ton poste toute la journée sur Transistor.
La meilleure émission que j'ai jamais faite.
Les deux là au fond, ça vous intéresse pas ce que je raconte? Alors je reprends.
La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les...
Transistor.
T'es plutôt FM ou podcast?
Oh, ça dépend des jours.
Eh bien, podcasté maintenant.
Pas mal, non?
C'est Transistor.